Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, ravi d'être avec vous hein, pour une émission anniversaire aujourd'hui, 2 ans déjà, presque on est là, qu'on vous offre le plus beau du sport tous les lundis soirs, 19h, 20h30, et ensuite vous retrouverez naturellement au bout du foot l'émission avec Malik à partir de 20h30 jusqu'à 22h aujourd'hui, et bien pour un peu célébrer, commémorer cet anniversaire. On va tout simplement parler d'un sport très souvent peu médiatisé, sauf chez nous, c'est le hockey sur gazon. Alors, je salue M. Jean-François Boyer, qui est du comité de Paris. C'est ça, président du comité de Paris. M. Boyer, bonsoir.
Bonsoir et bon anniversaire.
Oui, bon anniversaire. Oui, oui. En tout cas, on est ravis de parler d'un sport dont on ne parle pas souvent. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de parler de hockey sur glace avec les Français volants. Hein. C'était il y a quelques temps. Ils sont sur Bercy, donc ils sont un club voisin. On a eu aussi le roller hockey, les Corsaires du Paris 13, hein, qui sont aussi voisins. Avec le gymnase Marcel Cerdan, on n'avait pas eu encore l'occasion de le faire pour le hockey sur gazon.
Et bien voilà.
Voilà.
Nous sommes venus du 16e.
Oui.
Pas
loin du Parc des Princes, ça va.
Exactement. Ouais.
Très bien. Allez, je vais saluer. Ben justement, elle vous accompagne, c'est Ella, c'est ça?
Oui.
Oui. Bonsoir, Ella.
Bonsoir.
Oui, alors Ella, donc, qui va s'avancer d'abord plus près du micro. Voilà, ça sera mieux. Et puis, qui est aussi une des membres de l'équipe. Exclusivement féminine, hein, Ella.
Mon équipe, oui, exclusivement féminine.
D'accord, très bien. Et puis, il y a quelqu'un qui est invité, qui participera aussi à l'émission. Il fait une école de journalisme, il apprend le métier. C'est Alexandre. Bonsoir, Alexandre. Ça va?
Bonsoir, Philippe. Bonsoir.
Ouais, pleine forme.
Ça va, super forme.
Tu reviens de la Cannes, t'en parleras dans l'émission de foot tout à l'heure.
Dans l'émission qui suit, ouais.
Mais le hockey sur gazon, ça t'est pas un sport inconnu?
Pas totalement inconnu, parce que je connais une amie justement de mon école qui participe au hockey sur gazon au Stade Français.
Ah oui.
Et
très bon club.
Très bon club. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'elle m'a expliqué et que j'aime bien.
Ouais. Bah, tu pourras encore lui expliquer encore mieux à l'issue de cette émission. Et puis, elle est avec nous maintenant toutes les semaines. Hein. Elle nous fera la rubrique de Vanessa. C'est la belle Vanessa. Ça va, Vanessa?
Très bien.
Pleine forme?
En pleine forme.
Ouais, bon, alors on va parler des Jeux Olympiques de la jeunesse, hein, c'est ça aujourd'hui?
C'est exactement ça.
Et oui, parce qu'il y a des Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver et d'été. On en parlera avec Vanessa qui a suivi tout ça de très près. Et puis, on va faire un petit coucou à Laura, qui traditionnellement faisait le journal des sports, et Laura nous quitte, elle rejoint LCP, mais on va lui souhaiter tout plein de bonnes chances. Voilà.
Ben, LCP, une belle chaîne.
Ouais, c'est bien. Hein, voilà. Allez, on va commencer donc avec vous, Monsieur Boyer. Comment c'est arrivé le hockey sur gazon dans votre vie?
Dans ma vie,
par le hasard.
Tout à fait par hasard et par c'est le biais de mes enfants.
Ouais.
J'ai 4 enfants il y a très longtemps. Donc l'aîné a 45 ans et joue encore en master, mais plus de 40. Mais il y a 40 ans, au club qui s'appelait à l'époque le CASG, le club athlétique des sports généraux, qui est devenu ensuite le Paris Jean Moins. Il y avait la possibilité de jouer au mini-hockey et au mini-tennis.
D'accord.
Et ce sont deux sports qui sont parallèles. Et il y a beaucoup de clubs de tennis qui ont une section hockey. Vous prenez le CAM à Paris, le CAM, le Stade Français, on en parlait. Le CFP est également un club de tennis. Et en province, tous les grands clubs, Lille, Lyon, à Bordeaux également, sont en général jumelés. Vous jouiez avant au tennis l'été et au hockey sur gazon l'hiver, voilà. Et donc voilà, mon fils pratiquait les deux, il était assez doué dans l'un et dans l'autre, et je lui ai demandé de choisir, et il a choisi le hockey sur gazon.
Et depuis, vous savez pourquoi?
Je pense que c'est un garçon original et il aimait ne pas pratiquer le sport que tout le monde pratiquait, le football par exemple. Donc il est supporter de l'OM, ça n'empêche, mais il a donc pratiqué le hockey très rapidement et il a terminé, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, en équipe de France.
Ah bien.
Voilà, et donc il a eu une centaine de sélections en équipe de France.
Ouais,
absolument.
Donc le choix avait été bon, quoi.
Le choix avait été bon, mais je pense qu'il aurait performé au tennis. Mais bon, le nombre de tennisman est plus important qu'au hockey, bien sûr. Et ce sport est un sport qui permet quand même d'arriver à un haut niveau assez rapidement.
Alors, on parlait justement du hockey sur glace, hein, avec les Français volants qui s'entraînent sur Bercy. On parlait aussi du roller hockey avec le Paris 13 de Corsair. Est-ce que vous en avez beaucoup qui viennent du hockey sur glace et du hockey sur roulette ou qui font aussi le chemin inverse, c'est-à-dire qu'ils quittent le gazon pour pourquoi pas la glace ou même les roulettes?
Ceux-là, on ne les connaît pas. Non. Avec notre cousin, le hockey sur glace, il n'y a absolument pas de porosité. Dans l'esprit du grand public, il y a bien sûr un cousinage, absolument. Et on s'en défend parce qu'il y a un sport de gentleman pratiqué par des gentlemen et puis un sport de glisse pratiqué par... voilà.
Bon, du contact, hein.
Je vous laisse choisir de quel côté nous sommes. Non, alors, les rollers, c'est certainement quelques hockeyeurs qui vont vers le roller, mais rarement dans l'autre sens.
Et vous, donc, vous en êtes arrivé comme ça, à la présidence du club, à vous investir de par votre fils?
Oui, je faisais des accompagnements, comme beaucoup de bénévoles en France. Et puis, un jour, l'entraîneur, qui était un entraîneur hollandais, puisque le berceau, l'autre berceau du hockey, c'est la Hollande.
Oui, j'ai appris ça, on peut
voilà,
parler une
exactement.
Fois,
il est venu me voir un jour en me disant, écoutez, vous êtes là deux à trois fois par semaine, est-ce que vous n'auriez pas cinq minutes à consacrer au club parce qu'on manque de dirigeants? Je dis, écoutez, cinq minutes par semaine, pourquoi pas? Et en fait, j'y passe maintenant la moitié de ma vie lorsque j'étais en activité et je suis maintenant...
Président du comité de Paris, c'est ça?
Je suis président. Alors en fait, je suis président du club, président du comité de Paris et membre du comité de la Fédération française de hockey.
Donc,
et ancien président de la région Île-de-France. Non, mais vous savez, quand vous aimez...
Oui, bien sûr.
Et je n'ai jamais pratiqué.
Voilà. Oui,
Et je n'ai jamais appris les règles.
C'est des choses qui arrivent comme ça. Et là, alors, elle vient d'Irlande. Hein?
Je suis franco-irlandaise.
Voilà, donc c'est un sport très pratiqué là-bas.
C'est un sport très pratiqué là-bas. Et moi, j'ai commencé le hockey en regardant ma mère toute mon enfance.
Elle était hockeyeuse, sans raison.
Elle était hockeyeuse aussi, qui fait les Masters France aussi, comme, comme votre fils. Et j'ai grandi sur le bord du terrain tous les dimanches à la regarder jouer.
D'accord, alors, un jour,
D'un moment à l'autre, j'ai commencé à prendre une crosse et accompagner un peu l'équipe de ma mère et à rejoindre le club de Saint-Maur quand j'étais ado. Puis en Irlande, quand j'étais au lycée, j'ai continué à jouer au hockey au lycée en Irlande.
D'accord. Et quand vous êtes arrivé en France, vous avez joué donc au CFP, c'est ça? C'est le cercle féminin de Paris. C'est facile de trouver des clubs féminins de hockey sur gazon?
En rentrant en France il y a 4 ans, je rejoins le club de ma mère qui était déjà inscrite et impliquée dans le club. Il y a 4 ans, et à Paris, je pense qu'on peut trouver facilement du hockey féminin à Paris.
Oui, parce que Jean-François, justement, il y a combien de clubs d'abord, combien de licenciés en tout à la Fédération française sur le hockey sur gazon?
15 000 licenciés compétition.
Oui.
Parce qu'une des particularités, c'est que quasiment 99% de nos licenciés pratiquent en match. Les jeunes, à partir de 6 ans, en plateau, une fois par mois, et puis ensuite, de plus en plus le samedi, et puis jusqu'au senior. Donc, tout le monde pratique, et par contre, on est à peu près 50 000 pratiquants, si on comptabilise les scolaires, parce que les scolaires ou les centres aérés, moi, j'en parlerai tout à l'heure sûrement, mais nous intervenons beaucoup en milieu scolaire. Mais absolument, c'est un sport qui a beaucoup de vertus pédagogiques, qui est très apprécié par les enseignants. Et donc, nous en profitons pour travailler beaucoup dans les écoles. Alors, la passerelle vers les clubs n'est pas si évidente que ça. Parce que nous jouons sur un terrain qui est synthétique maintenant, alors qu'initialement, on jouait, comme le nom l'indique, sur du gazon. Mais au fur et à mesure, on est passé sur une surface synthétique. Et puis synthétique arrosé.
C'est une question que j'allais poser. Maintenant, vous ne jouez plus sur de l'herbe.
Quasiment plus.
Et on peut avoir des terrains adéquats pour le hockey sur gazon? Il faut les partager avec d'autres sports.
Alors, il y a les deux. Mes camarades du CFP, qui sont voisins, ont un terrain qui va bientôt voir le jour en avril et qui est un terrain qui est pratiqué et partagé avec le football. C'est à peu près les mêmes surfaces.
Il y a
un tracé qui est
légèrement
différent.
Qu'il faut changer, ouais.
Et les buts également, qui sont plus petits, puisque nos buts sont des buts de handball à peu près. Mais par contre, le seul terrain officiel de Paris, de la ville de Paris, il est sur l'hippodrome d'Auteuil, porte de Passy, et c'est le terrain sur lequel nous évoluons. Et celui-ci, il est spécifique hockey sur gazon.
Très bien. Il y a beaucoup de clubs sur Paris.
Alors, sur Paris...
Et en Île-de-France.
Voilà, je préfère parler de l'Île-de-France. Oui. Vous avez un club à Saint-Germain, vous avez le club du Racing à La Boulie, vous avez le club du Stade Français à Vaucresson, le CFP, et puis à Montrouge, le CAM.
D'accord.
Saint-Maur, Villiers-le-Bel, Blanc-Ménil.
Non,
nous avons quelques clubs. Et puis, le tout récent, le tout nouveau, c'est la Salésienne de Paris dans le 17e, qui vient d'ouvrir une section et qui fonctionne bien. Et donc, ils se sont affiliés à la fédération. J'en suis pas peu fier, parce que c'est moi qui avais entrepris. Et également une section à l'ACBB, à Boulogne. Et nous essayons de travailler avec le PUC. Mais là aussi, difficulté de trouver des créneaux, c'est la difficulté.
Il y a Agnières aussi.
Et Agnières, bravo, voilà. Merci.
Il y a un nouveau.
Oui, tout à fait. J'espère ne pas en avoir oublié.
Ce sont des clubs qu'on connaît bien, le PUC, le Stade Français, on les a reçus. Ils sont
bien
souvent
sûr.
Nous parler de leur section omnisport et notamment le rugby, qui est important au PUC. Est-ce que les jeunes qui viennent restent dans votre sport? Parce qu'on sait qu'il y a un âge où les jeunes, ils essaient un petit peu...
Oui,
des activités.
Il y a un turnover de 20%, 30% selon les clubs, effectivement, mais qui sont compensés toujours par une nouvelle arrivée de joueurs. Je prends encore une fois l'exemple. Il y a le club de Colombes également qu'on a oublié, parce que vous savez que les Jeux Olympiques auront lieu au Stade du Manoir.
Le vieux Colombes qui sont en train de rénover d'ailleurs.
Totalement. Écoutez, j'ai eu la chance de le visiter avec la fédération il y a une semaine. C'est une installation, un outil fantastique. Et nous sommes fiers de pouvoir d'être la première installation olympique déjà installée. Et nous sommes fiers également de bénéficier d'un héritage.
Oui.
Puisqu'on parle toujours de l'héritage.
Tiens, pour les jeunes comme Alexandre qui découvrent, les Jeux Olympiques, c'était à Colombes en 1924.
Exactement. Alors, il n'y avait pas de hockey.
Non. Paradoxalement.
Voilà. Ouais. La dernière fois que l'équipe de France a participé aux Jeux Olympiques, c'était en 1972, à Munich, je crois.
Alors, on aura l'occasion d'en reparler, mais est-ce que ce n'est pas ce qui manque pour que votre sport soit plus médiatisé? Bon, toutes les équipes des sports collectifs sont qualifiées d'office pour les Jeux Olympiques. C'est l'occasion pour aller décrocher une médaille et pourquoi pas un titre.
Alors, nous visons le quart de finale pour l'instant, modestement.
Bon.
Chez les filles, ça risque d'être un peu plus difficile.
Ouais.
Pardonne-moi, mais même si ils viennent de réaliser une vraie performance en Afrique du Sud dans un tournoi qu'ils ont gagné, donc l'équipe féminine est un peu plus loin au ranking. Mais l'équipe de France a fait d'énormes progrès ces 8 dernières années. Et on est maintenant régulièrement dans le top 12 et maintenant, je crois, dans le top 10.
Mm-hmm.
Mais ça n'est pas forcément le gage que nous soyons sur le podium. C'est un rêve.
Vaut mieux être outsider, on ne sait jamais.
Voilà. Mais mieux vaut viser la lune, un jour on retombe dans les étoiles, ou le contraire, je ne sais plus.
Et là, donc, c'est le CFP. CFP. Vous êtes combien dans un club uniquement féminin?
Non,
mais
j'ai pas
vu sur les photos, c'est mis, c'est mélangé.
C'est pas uniquement féminin. On est à trois équipes féminines et deux équipes masculines.
D'accord. Okay.
Et
donc vous l'avez
3.
Ouvert, quoi.
Non, trois équipes masculines. Excusez-moi, on est une nouvelle équipe masculine cette année. J'avais oublié.
Vous l'avez ouvert, quoi.
Le club n'est pas... Même si on s'appelle le cercle féminin de Paris, on n'est plus que des femmes. On a décidé d'ouvrir les portes aux hommes.
Alors, vous êtes combien de femmes et de jeunes filles à pratiquer ce sport?
Au CFP, on est une cinquantaine. On est sur 110 membres.
Oui, 48%. J'ai regardé les statistiques.
C'est presque la parité.
On a presque la parité féminine au club. Cette année, on a quelques membres en moins à cause de ce terrain qui va revenir en avril avec une grande joie.
Oui, parce que vous allez nous expliquer, j'ai vu ça en préparant l'émission sur style, vous avez des problèmes de terrain actuellement. Vous êtes obligé de délocaliser vos entraînements un peu partout.
Actuellement, on est entre des terrains, étant donné que notre terrain habituel est en travaux
Et pourquoi? C'est pourquoi? C'est
parce
pour les jeux? C'est quoi?
qu'il y avait besoin d'un renouveau du terrain. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été refait et c'était.
Alors on va rappeler où sont vos terrains parce que vous êtes un club du 16e, hein, on le
oui.
sait. C'est Porte de la Muette, c'est ça?
Notre club
Porte
est
de la Muette
Porte
pour
de la
le
Muette,
CFP.
Ouais.
Oui.
Mmh. Et bah, le
un seul terrain pour autant de.
Un seul terrain et on partage aussi un petit créneau avec le PJB de. Pour le moment.
Voilà, et les matchs officiels.
Et les matchs officiels.
Donc, vous êtes combien d'équipes à jouer dans les différents championnats et ça se passe comment?
On est 5 équipes à jouer dans les championnats. On a une équipe féminine en National 1, une équipe féminine en National 2, on a une équipe masculine en National 2 et 2 équipes masculines en Régional 1. Donc on est fiers de nos équipes qui sont
les résultats sont bons en fin de compte. C'est un club formateur ou alors on veut quand même aller un petit peu plus loin.
C'est un club qui aime gagner quand on gagne, mais ça dépend des moments. Il y a des matchs qu'on gagne et des matchs qu'on perd. On est fiers d'accueillir beaucoup de personnes internationales, beaucoup de gens d'ailleurs. On gagne et on perd des matchs.
Ouais, vous êtes comment sur le terrain? Vous êtes une battante ou une mauvaise perdante? Non.
Moi, je suis toujours souriante.
Ah, c'est bien, c'est bien.
J'aime bien gagner. Ouais, ça m'arrive pas très souvent, mais c'est le jeu et je prends plaisir à jouer au hockey tout le temps. Donc, voilà.
Monsieur Boyer, il n'y a pas de problème vis-à-vis des pratiquants, des pratiquantes. On arrive à scinder tous ces groupes, tous ces collectifs. Parce qu'ils viennent d'où, vos pratiquants et pratiquantes? Ils ne viennent pas que de Paris.
Non, on a à peu près 30% qui viennent de Boulogne. Je dirais sur ensuite 60% ou 55% du 16e. Et puis le reste vient d'autres arrondissements parisiens. Et nous avons la chance, le CFP, de la même manière, d'avoir le métro à nos portes, le RER à nos portes.
Ça, c'est important.
Donc ça, c'est très important. Mais le manque d'infrastructures est un vrai frein au développement.
Oui, non, c'est ça.
Mais on habite Paris. Vous savez que c'est un sport qui se pratique également, vous l'avez sûrement lu, vous qui êtes un professionnel du sport, que nous pratiquons également le hockey en salle pendant la période d'hiver, et que ce soit en gymnase ou en terrain, nous avons quand même...
Alors c'est pareil, les gymnases, faut les réquisitionner, ça ne va pas être évident non plus.
C'est un terme que nous connaissons hélas trop, la réquisition, c'est-à-dire que pour loger parfois les sans-papiers... on est privé du stade d'un gymnase dans le 16e, c'est le gymnase Jean Moin. L'année dernière, on a dû être privé 5 à 6 semaines de sport.
Ah, quand même.
Ah oui. Bah, c'est un problème endémique.
Même dans le 16e. Hein.
Mais... Alors parfois, les mauvaises langues disent c'est surtout dans le 16e.
Oui. Alexandre, ça t'inspire un commentaire? T'as pas envie d'aller essayer là?
Bah franchement, plus j'écoute, plus si, parce qu'en plus moi je suis plus fan de foot, mais quand j'entends que ça se joue sur un terrain
de foot... Tu sais, t'es journaliste, il faut traiter tous les sports.
Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais du coup, vu que ça joue sur un terrain de foot, ça me donne encore plus envie d'y aller. Et j'avais vu un moment, parce que j'étais au Crêpes de Châtenay-Malabry, et il me semble qu'il y a...
Très bon Crêpes, je connais bien le président, Monsieur Godard, le directeur.
Très bon Crêpes, et il me semble qu'il y a un terrain de hockey sur gazon,
bien
si
sûr.
Je dis pas de bêtises.
Ouais.
Donc voilà.
Et je suis même venu faire 2 conférences au Crêpes devant ceux qui préparaient les jeunes comme toi qui préparaient les BPJEPS parce que je voulais démontrer que le hockey était également une filière professionnelle, non pas pour devenir joueur professionnel, mais pour pouvoir travailler dans le club. Moi, en tant que président du comité de Paris, je suis employeur, j'ai 3 jeunes que j'emploie à l'année, qui
sont
des salariés.
Éducateurs, non, spécialisés.
Éducateurs, spécialisés.
Ouais, ça.
Alors,
ça, c'est intéressant de savoir qu'il peut y avoir des emplois à travers.
Bien sûr, bien sûr. Ils gagnent pas des millions, mais ils ont un salaire, je disais, plutôt que d'être caissier chez Decathlon ou Go Sport, venez dans nos clubs de sport, de hockey en particulier, et vous pourrez pratiquer un sport en pleine nature. Donc, c'est ça qui est très agréable. Voilà. Et pour simplement te rassurer, Alexandre, enfin, te donner encore plus envie, j'ai un footeux que je suis en train de former au hockey sur gazon.
Ah ben oui, non mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va proposer un sujet avec son école du journalisme.
Mais bien
et
sûr.
Il viendra faire un petit sujet sur votre club.
Ah oui.
Voilà. Hein ?
Bah franchement,
c'est une bonne idée.
Hein. Franchement, c'est une bonne idée. Je pourrais même avoir mon ami qui fait du hockey sur gazon, justement.
Au stade français.
Au stade français, bien sûr. Je vais proposer de venir.
Mm-hmm. Voilà. Il n'y a pas de rivalité entre vous, entre clubs parisiens.
Si, on
se... Il y a les derbies, mais enfin, bon, ça reste bon.
Mais il y a toujours une troisième mi-temps.
Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. On va voir un coup ensemble.
Oui,
après,
oui, tout
voilà.
à fait.
C'est
oui.
l'essentiel. Bon, Vanessa, ça t'inspire un commentaire, là ? T'as pas
oui,
envie d'aller aussi mettre ton micro là-bas ?
Si, je vais aller mettre mon micro, puis je vais tester. Comme ouais. ça, voilà.
Mais vous êtes la bienvenue.
Avec plaisir.
Ouais, ouais.
J'aime beaucoup tester d'autres sports, différents sports. Oui. C'est aussi ça qui fait la richesse.
Bien sûr, ouais. bien sûr.
Alors, c'est un sport qu'on peut, comme le foot, pratiquer à 11. Hein. Il y a un poste bien défini pour chacun.
Ah oui, 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 il y a des...
On n'est pas interchangeable.
Le goal.
Oui,
le goal.
Le gardien, lui, il a du ah, mal.
Le, le gardien, c'est dur de le mettre sur le terrain.
Ouais. Oui. Alors, est-ce que c'est la même spécificité qu'un gardien de foot ? Parce qu'un gardien, c'est quand même quelqu'un d'un petit peu particulier, quoi, un solitaire, comme on dit. Hein.
Avez-vous, vous, une photo d'un gardien en équipement de gardien sur un terrain de hockey ?
Non, je n'ai pas
non.
de photo, non, mais...
Je peux vous montrer ouais. une photo vous...
bah là, la radio, c'est difficile.
Ça va être difficile, ouais. mais c'est un gardien au hockey et ouais. très, très équipé parce
oui,
que les
sûr.
Balles sont dures. Donc, on ne peut pas trop se prendre de coups.
Non, mais sinon, la préparation d'un gardien, l'état d'esprit d'un gardien, la philosophie d'un gardien, on sait que ce sont quand même des gens un petit peu à part. Les gardiens, c'est normal, c'est le poste qui veut ça. C'est pareil pour le hockey sur gazon.
Ah oui, oui, je pense qu'ils sont... Oui. Ils sont bien sûr complètement intégrés dans l'équipe, mais ils doivent avoir de l'autorité parce que, comme au foot, ils dirigent leur défense. Ils doivent avoir quand même des réflexes et ils ont vraiment un rôle tout à fait particulier. Oui, oui, absolument. Mais chaque joueur a un rôle particulier.
Oui, alors, après, il y a une défense.
Il y a une défense.
Est-ce que c'est la même qu'au foot, c'est-à-dire deux latéraux et deux centraux ?
Voilà. La différence, mais tu vas pouvoir en parler
avant,
mieux.
Avant, c'était les stoppeurs libéraux, mais c'est fini ouais. maintenant.
Alors, il y a plus de, vous savez qu'il n'y a pas de hors-jeu. C'est un sport. Le hors-jeu existait.
On va parler des règles ouais,
voilà.
tout à l'heure.
Le hors-jeu, mais ça change un peu parce que les arbitres...
Ah bah au moins, ça évite les problèmes d'arbitrage.
Exactement. Et donc, nous avons deux arbitres. Oui. Qui sont sur le terrain, pas de juge de touche.
Par moitié de terrain.
Voilà, et le terrain est partagé dans la diagonale et chacun, en gros, a une prépondérance sur une partie de son terrain. Mm-hmm. L'autre arbitre, son collègue, peut lui indiquer qu'il a raison ou par des gestes, lui, je dis ça parce que ce geste-là, ça veut dire que c'est un petit corner, une action. Et donc, si son collègue n'a pas vu un pied dans la zone, l'autre peut lui indiquer. Mais chacun est maître dans sa demi-partie de terrain.
Rassurez-moi, il n'y a pas la VAR encore.
Non, il n'y a pas la VAR. Si, alors.
Ah ouais ?
Si, si. Dans les compétitions européennes et internationales, il y a la VAR.
Oui, oui.
Ah ouais. Et alors, vous avez droit à un recours par mi-temps. Et d'accord. si votre recours n'est pas positif, vous l'avez perdu pour le restant de la mi-temps. Mm-hmm. Donc, c'est, oui, on a le droit maintenant à ça. Vous savez, c'est un sport qui se pratique, qui est un sport enfin, que j'aime beaucoup, même sans l'avoir pratiqué. Il faut être véloce, rapide, précis. Et vous, une des fautes principales, c'est bien sûr la balle quand elle vient au contact avec le pied, volontairement ou involontairement. Et ça, pour les arbitres, compte tenu de la vitesse à laquelle ça va, parfois, ils ont besoin d'avoir recours quand même
oui,
à
la vidéo. Oui, c'est un petit peu comme la main au foot, quoi. Volontaire
oui, c'est
ou pas volontaire.
Exactement, ouais. Ouais. Mmh. Et donc, on utilise effectivement la vidéo pour juger de certaines fautes. Oui.
Alors, donc, derrière, il y a quoi ? Il y a deux latéraux et deux centraux ?
Oui, 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 oui.
Après, il y a des milieux de terrain. Alors, c'est un 4-3-3, un 4-4-2
oui, oui, oui.
Non, est-ce qu'il y a...
Oui, oui, c'est vraiment la même...
3 milieux de terrain aussi, ou 4 milieux de terrain ?
Oui, oui, oui. Ouais. C'est vraiment la même configuration. Et puis, nous avons une des spécificités, c'est le scoop, c'est-à-dire quand la balle est lancée en hauteur par l'arrière, souvent, qui vise en fait un de ses attaquants démarqué. Voilà.
D'accord.
Donc ça s'appelle le scoop, c'est une de nos particularités.
Ouais. Alors, les entraîneurs, est-ce qu'ils sont comme au foot ? Il y a des choix tactiques, c'est-à-dire il y a des plus défensifs, il y a des plus offensifs. Je parlais du 4-3-3 ou du 4-4-2. Hein.
Oui.
Est-ce que c'est pareil ? Est-ce que c'est les mêmes visions ?
Oui, absolument. Oui, oui. Alors, il y en a qui attendent et puis qui vont pratiquer par...
On peut gagner des matchs en jouant à la défense ?
Oui, par des contre-attaques, oui. Oui, oui, bien sûr. Ça se pratique vraiment de la même manière que le foot. Et autre particularité que nous avons, enfin, ce n'est pas la seule, c'est que nous pouvons changer les joueurs quand on veut, et aussi souvent qu'on veut. Donc il faut être 11 et pas plus. Donc
ça, c'est... Alors il doit y avoir quand même des... Il doit y avoir des fois des choix tactiques, des joueurs, qui, des entraîneurs qui sollicitent trop souvent des changements qui peuvent arrêter le jeu direct.
Ah non, parce que on vous l'arrêtez. Voilà, on n'arrête pas le jeu. Ouais.
C'est-à-dire
En plein jeu,
on ne signale pas l'arbitre que le joueur va rentrer.
Non, tu le signales pas à l'arbitre, ton joueur change au milieu du terrain sur la ligne. Tu ne peux pas rentrer sur le terrain.
Oui, parce que sinon, il y aurait des arbitres qui...
Mais tu n'arrêtes pas le jeu.
Donc voilà, et puis l'autre particularité, c'est le carton jaune, le carton vert d'abord.
Alors carton vert, c'est quoi?
C'est deux minutes, Non, c'est une faute, disons considérée comme, pas bénigne, mais une faute quand même. Ou rouspétance, hein, une réclamation auprès un peu trop virulente. Donc là, le joueur doit automatiquement aller s'asseoir deux minutes sur le siège et les deux minutes ne commencent à être comptées que quand il est assis.
Sorte d'expulsion temporaire.
Voilà. Et ensuite, il revient sans que l'arbitre n'ait à lui dire. Voilà. Mm-hmm. On a une table technique et c'est la table technique qui donne, tient le chrono. Et puis, les cartons jaunes. Alors là, c'est entre 5 et plus. Au minimum, c'est 5 minutes. Mais c'est ensuite à l'appréciation de l'arbitre en fonction de la faute.
Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire comme faute? Parce qu'au foot, il y a le fauchage, il y a le croche-patte, il y a le...
Nous avons la même chose.
On peut
jouer à l'épaule, mais un jeu à l'épaule trop virulent est considéré comme une faute. La faute de pied, intentionnelle... l'attaque de crosse, ce que nous appelons une attaque de crosse, c'est-à-dire quand pour prendre la balle, la crosse vient taper violemment sur la crosse de votre adversaire qui l'empêche de jouer, quoi. Ce sont principalement les fautes qui occasionnent les fautes intentionnelles, en général sanctionnées par un carton jaune.
Et carton rouge, c'est l'expulsion. Voilà. Ça arrive souvent?
Non.
Non. Alors justement, j'allais parler de l'arbitrage. Est-ce qu'il y a beaucoup de contestations d'arbitrage?
Non, parce que nous
essayons... Est-ce que c'est philosophique dans l'hockey sur gazon?
Alors, je vais laisser parler la joueuse, termes de dirigeants, nous essayons d'éduquer nos joueurs, et nous essayons d'éduquer également la touche, qui est importante, donc les spectateurs, dès le plus jeune âge, pour qu'ils ne rouspètent pas, parce que l'arbitre est essentiel au jeu, comme dans tous les sports, et... L'important, c'est de ne pas les décourager.
Et il y a des parents, des fois, comme ça, sur le bord de la touche, c'est difficile, parce que pris par la passion. Par
absolument. Bien sûr.
Malheureusement, ça se fait dans tous les sports.
Voilà. Alors, sincèrement, nous avons la chance, parce que nous ne sommes pas un sport de masse, de pas être trop victime de l'engouement des parents. Mais on sent quand même de temps en temps qu'il y a une petite tension.
Et est-ce que vous qui êtes président du comité de Paris, est-ce qu'il y a des jeunes qui sont attirés par l'arbitrage? Vous parliez justement des formations. Est-ce qu'on fait des formations d'arbitres de hockey sur gazon?
Alors, on essaye de le faire. Les jeunes ne sont pas spontanément attirés par l'arbitrage, hélas.
Mais la fédération commence à mettre un système en place pour encourager que les jeunes commencent à apprendre à arbitrer beaucoup. De ce que je comprends.
Bien sûr, oui,
c'est
tout
bien.
À fait.
Puis ça apprend les règles, et puis ça apprend l'humilité, c'est bien.
Bien sûr, et vous avez Luxel, qui lui nom général des sports, des écoles libres, qui pratiquent donc, comme son nom l'indique, dans les écoles privées. Eux, c'est automatique. La formation des arbitres est indispensable. Dans le cursus éducatif, si vous voulez jouer, il faut absolument que vous ayez une formation à l'arbitrage. Vous avez en Belgique, vous ne pouvez pas avoir votre licence si vous n'êtes pas diplômé arbitre. Mm-hmm. En France, on a beaucoup de mal à le faire, mais on progresse.
On essaye.
On essaye.
On essaye.
Ouais. Et ça va, les filles, elles rouspètent pas trop?
Les filles rouspètent moins que les garçons, comme d'habitude. Mais non, moi, au sein de mon équipe et au sein de mon club, on rouspète pas trop. Après, il y a toujours... Il y a toujours des erreurs d'arbitrage, et c'est normal. Et quand on est sur le terrain et qu'on est dans le feu de l'action, faut garder un tempérament. Et la majorité des gens que je connais qui font du hockey gardent le tempérament.
Et vous êtes quel poste?
Moi, je joue en arrière.
En arrière, d'accord, ok. Toujours arrière, jamais vous changez de poste.
Je peux changer de poste aussi.
Ouais.
Et puis, il
faut l'émanation collective quand même, c'est important. Il y a parfois peut-être certains ou certaines trop individuels dans le jeu.
Ça dépend, oui, non. Ça dépend des équipes. Ouais. Il peut y avoir un jeu un peu individuel, mais le but, c'est jouer en équipe et que tout le monde y participe. Après, oui, il y a toujours, il peut toujours y avoir certaines joueuses qui jouent en individuel, ou joueurs d'ailleurs.
Vous savez, c'est on l'a vu au rugby, par exemple.
Oui, parce que le rugby, c'est bien un sport où le collectif est important, c'est le rugby. Hein. Voilà. On peut gagner un match sur un individu au foot, beaucoup moins sur le rugby. Hein.
Absolument, mais on s'aperçoit que quand une équipe est en difficulté, il y a certains individus qui ont l'impression qu'ils vont sauver la patrie. Et c'est à ce moment-là qu'ils oublient les consignes du coach, les tactiques mises en place, et qu'ils vont un peu trop loin. Donc, ils dribblent une fois, deux fois, et ils se font prendre la balle à la troisième. Et voilà. Et donc, l'individualisme. Et donc, juste pour apporter une précision, mais là aussi, je pense que c'est dans tous les sports collectifs comme ça, nous avons des obligations d'arbitrage. C'est-à-dire que tous les matchs qui se déroulent en région sont arbitrés par les clubs autres. Si vous avez un match CFP contre le Stade français, c'est le Paris Jean-Moins qui va aller arbitrer, par exemple.
C'est bien,
voilà.
C'est bien. Oui,
donc,
bah
vous
oui,
êtes obligé de trouver... Voilà, ouais. Et c'est pareil pour les jeunes, les plateaux, le samedi après-midi. Jusqu'à là, maintenant, on avait des coachs qui arbitraient et on essaye de lutter contre ça. On veut que les coachs restent coachs et que ce soit des jeunes qui arbitrent.
Très bien, bah écoutez, on va poursuivre cette intéressante interview. On va écouter une première pause musicale. Hein. C'est quoi? C'est Neil Diamond?
Sweet Caroline.
Ah ouais, elle parle mieux l'anglais que moi. C'est bien, c'est normal, elle vient d'Irlande. Allez, on y va.
Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you.
Voilà, donc cette émission, on va vous rappeler, hein, d'abord, elle sera rediffusée demain entre 10h et puis 11h30. Elle sera sur toutes en podcast, hein, et puis sur tous les différents réseaux sociaux, toutes les applications de podcast. Vous pourrez retrouver toutes nos émissions de cette semaine, enfin, de cette saison, hein, de celle de cette semaine aussi, et puis toutes celles qui existent depuis la création de notre émission. Voilà. Est-ce que, donc, quand on vous rejoint, est-ce que c'est encore possible d'abord? Et est-ce qu'on prend au départ un poste adapté à sa morphologie?
Non. Les enfants, en fait, sont polyvalents, là, pour le oui. coup. C'est un sport qu'on démarre à partir de 5 ans.
D'accord, donc il y a une école de hockey.
Il y a une école de hockey. Okay, sûrement, le Paris-Jonmois, c'est 400 licenciés. Et donc, nous allons de 5 ans oui, jusqu'à 60-65 ans. Nous avons 30% de femmes. Et voilà, et notre équipe première est en élite. Donc, il y a en championnat de France, il y a chez les hommes, comme chez les femmes, il y a une élite donc qui représente 10 clubs. Et puis ensuite, National 1 et National 2. Et puis, les divisions régionales, voilà. Et donc,
j'ai des championnats comme ça. On monte, on descend comme
ça. Ah oui, absolument. Ouais. Chaque année, il y a deux qui montent et ouais. deux qui descendent.
Et vous allez loin dans vos déplacements?
Chez
partout
les
en France.
Voilà, chez les
partout
femmes, on est dans la même catégorie. On est par exemple Antibes.
Hein,
on
va
Antibes. À Antibes. Ouais.
Comment vous partez en voiture, en train,
en avion.
En avion. Ouais. Ouais, ouais.
Ou d'accord. en train.
Ouais, ouais. Non, parce que c'est important possible. Parce que souvent les clubs n'ont pas toujours les moyens aussi de payer les transports et puis bon, on se déplace ouais. par ses propres moyens. Hein. Et puis le bus, ça soude un collectif quand même. Hein.
Oui, mais
mais aller à Antibes en bus, ça fait un très long voyage pour un dimanche.
Ah ouais. C'est une très belle ville en plus, Antibes.
Ouais.
Et puis, vous êtes quand même 16 sur la feuille de match.
Oui, oui, oui.
Y a un coach, un kiné, un dirigeant ou deux. Voilà, vous êtes tout de suite 20. Donc, le bus, là, il faudrait un 30 places.
Est-ce qu'on peut vivre de ce sport si, par exemple, demain, elle a un niveau international, est-ce qu'elle peut retourner en Irlande et dire « je vais vivre du hockey sur gazon » ?
Alors, comme joueuse,
oui.
je pense que c'est compliqué.
C'est compliqué.
Je pense que ça dépend des pays.
Oui, ouais. peut-être.
En France, on ne peut pas en vivre.
En France,
hommes-femmes, on
ne
peut pas en vivre, c'est pas possible.
Non.
Il n'y a pas des Français ou Françaises qui se sont expatriés ?
Si, il y en a quelques-uns en Belgique, en Hollande, en Allemagne. Mais si vous voulez, ils sont, je dirais, défrayés. Mais, oui. mais pas...
Ils ne peuvent pas en vivre.
Non. Souvent, vous avez une voiture, un appartement et puis un petit peu d'argent de poche. Mais non, c'est pas...
Oui, ça reste un sport, hein,
voilà.
encore un sport.
Ouais, ouais. Ouais, ouais. La Belgique est un peu particulier parce qu'il y a, je dirais, 20 ans, la Belgique était au même niveau que nous sportivement. On avait les mêmes résultats. Et puis, parce que c'est un petit pays, parce que c'est un pays de convivialité, parce que il y a eu un sponsor, je crois qu'ils ont été aidés par Volkswagen, ils ont explosé et ils sont les Olympiques, enfin les champions olympiques sortants. Quoi.
Oui, donc, oui, j'ai vu ça. Donc Belgique, Pays-Bas, c'est les sports, c'est ceux qui dominent ce sport en Europe.
Exactement.
D'accord.
Et
Allemagne aussi peut-être.
L'Irlande, l'Angleterre.
Ouais. Après. Domine, ça dépend pas où est au JO, je pense, ouais. mais ils sont. Ils
et
sont...
sur un plan mondial, c'est l'Inde, le Pakistan ?
Non. Ils sont toujours dans les 12 qualifiés, mais ce ne sont plus les champions. Hein. C'est maintenant vraiment des champions. Vous avez l'Australie.
Le Canada ? Il me semble
le
que
Canada,
le Canada...
Ouais. Ça doit être compliqué au Canada pourtant. Oui. Hein.
Je pense que c'est...
Mais jouer au Canada, ça doit être compliqué.
Ce sont plus des sports féminins.
Alors, dans les pays anglo-saxons, c'est principalement un sport féminin.
Ouais.
En Irlande, on considère le hockey... Bon, elles ne se sont pas qualifiées malheureusement pour les JO, mais c'est considéré un sport féminin. Les garçons jouent à d'autres sports principalement. Après, bien sûr, il y a des hommes qui jouent au sport, mais c'est un sport... Le sport collectif n'est pas forcément masculin en Irlande ou en Angleterre.
Il y a le rugby qui domine en Irlande.
Voilà. C'est le cas de l'Argentine, par exemple.
Aussi. C'est le foot, en Argentine.
Effectivement, dans les bonnes écoles, donc un peu privées, les garçons jouent au rugby et les filles jouent au hockey. Ah,
exactement.
C'est vrai que le rugby commençait au côté universitaire, donc il y a le même principe pour le hockey sur gazon, quoi.
Oui, absolument.
Bon, au Canada, c'est plus le hockey sur glace, jouer au hockey sur gazon, ça doit être compliqué.
Le palais va aussi vite.
Ouais.
Donc nous ne parlons pas de palais, hein. nous avons une crosse en commun.
Ouais, alors justement, l'équipement. Alors parlez-moi un peu de l'équipement. Parce que, tiens, ça coûte combien une licence de hockey sur gazon ? Pour les parents, c'est important.
Ça oui, oui. Combien ? La licence fédérale, c'est à peu près 80 euros.
À l'année, donc c'est correct.
La cotisation pour jouer au PJB, c'est 525
euros. 525
euros. Voilà, dont la cotisation.
Le prix au CFP est beaucoup moins élevé.
Ouais. Oui, oui.
On a réouvert une école de hockey il y a deux ans.
Oui.
Et on la développe énormément maintenant au CFP. Et la cotisation pour le CFP est à 300 euros actuellement. Pour les adultes.
D'accord. Ça paye les déplacements, tout ça, c'est ça.
Ça paye les déplacements.
Oui. Alors bon, l'équipement, il est donc à partir de là complètement gratuit, short, maillot, sans
vêtements.
Non.
Ah oui, c'est.
Ça, par contre, ça peut être un désavantage.
Oui, oui, absolument. Sport, ouais. Ouais. Nous sommes dans toutes les villes où nous sommes plutôt un sport CSP++.
Ah ouais.
Alors c'est une de nos particularités.
Et les chaussures, c'est quoi? C'est une paire de tennis?
C'est une paire de chaussures moulées avec des petits crampons. Qui ne sont pas tout à fait ceux du foot, mais qui sont ceux du foot pour jouer sur les synthétiques.
Ouais,
absolument. Mm-hmm. Et vous avez des protèges tibia.
Oui,
protège dents obligatoire.
Oui, protège dents, protège tibia.
Et puis
le casque aussi, peut-être pour le gardien. Non,
pour le gardien, bien sûr.
L'équipement de gardien est complètement différent que l'équipement d'un joueur sur le terrain.
Mm-hmm.
Donc l'équipement de gardien est généralement fourni par le club. Enfin, ça dépend des gens, mais beaucoup de clubs ont leur équipement de gardien qui donne à le gardien de leur équipe.
Oui, parce que ça coûte entre 600 et 800 euros un équipement de gardien.
Parce qu'il porte des grosses guêtres, tout son corps est couvert intégralement avec un équipement
ça,
qui est très épais.
Ça, c'est quand même un désavantage pour des parents, pour la pratique de ce sport quand même, 800 euros.
J'en conviens, mais bon, vous savez, j'ai un très bon ami qui est président du club de Blanc-Ménil, Michel Catalano, voilà, et Villiers-le-Bel, ils arrivent à Saint-Maur, ils jouent avec une population qui n'est pas celle du 16e.
Ils arrivent quand même à avoir des équipes, à avoir des licences.
Absolument. Alors, ils sont aidés par leur municipalité. Alors, je remercie encore la ville de Paris qui nous aide. Mais certainement qu'à Blanc-Ménil ou à Villiers-le-Bel, ils sont mieux aidés et plus aidés par leur municipalité. Mais voilà, c'est
Alors, au niveau des règles, donc, on disait les matchs, c'est en combien de temps?
4 fois
15 minutes.
4 fois 15, c'est ça. Hein, ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué?
Si, on était demi-temps de 35.
Voilà, c'est ça.
Et nous sommes... C'est un peu plus de 15, d'ailleurs. Hein, puisque,
oui, c'est 15 ou
4 17,
17 en fonction des petits
4 fois 17, 5 en préparant l'émission. Ouais. Et pourquoi avoir comme ça changé?
Une question de rapidité pour que les joueurs puissent souffler. Est-ce que dans la tête des dirigeants internationaux, il y avait aussi la volonté d'avoir un sport télévisuel rythmé, avec peut-être des pauses publicitaires? Allez savoir.
Ah ouais. Bah oui, c'est ça.
Oui, oui. Parce que c'est quand même un sport extrêmement rapide. Maintenant, nous avons des j'ai que le mot pacemaker, mais nous avons...
Des datas qui font des
Voilà, exactement. Les coachs regardent un petit peu.
C'est une question que j'allais poser aussi. Mmh. Aujourd'hui, ça s'est amélioré techniquement, physiquement?
Physiquement, les joueurs qui sont en équipe première de tous les clubs qui sont en élite s'entraînent 3 à 4 fois par semaine, plus le match le week-end. Donc ce sont vraiment des athlètes de très haut niveau.
Il y a beaucoup de blessures?
Non.
Non, très peu.
Vous avez de temps en temps une arcade, mais pas plus qu'au foot et beaucoup moins qu'au rugby. Et quand il y a des je ne veux pas attaquer nos amis du rugby, mais nous voyons arriver pas mal de joueurs qui viennent du rugby parce que les parents sont un peu impressionnés voilà.
Par contre, j'ai vu que dans le décompte des points, il y avait un décompte un petit peu particulier dans des matchs de championnat.
Allons bon.
Une victoire, c'est 3 points.
Oui.
2 points pour une victoire avec prolongation ou tir au but. Non?
Ah bah ça m'a échappé,
ah
ça.
Ah bah oui.
Pour les points à la...
Oui, pour
à
les
la
points
FFH?
Dans un championnat, ouais, ouais.
Non, non.
Et puis ensuite, un point pour une défaite en cas de prolongation ou tir au but, et 0 point pour une défaite dans le temps réglementaire. Voilà. Ça, c'est les décomptes qui se déroulent dans les différents championnats.
Bon, bah écoutez, il va falloir que je me recycle. On redémarre le championnat
niveau,
début mars.
Mais vous, par exemple, c'est 1, 2...
Pour moi, je compte une victoire ou une défaite.
Ouais,
c'est ça.
On n'a jamais réfléchi à. Enfin, moi, j'ai jamais réfléchi dans ce nombre de points-là.
Ouais.
En tout cas.
Alors, les épreuves les plus importantes, c'est les Jeux Olympiques, naturellement. Il y a des Coupes du Monde, des Coupes d'Europe,
oui.
Au niveau des clubs, au niveau des équipes nationales.
Oui, oui, absolument. Oui.
Il y a Europe et Monde.
Oui, oui.
Tous les 4 ans, tous les 2 ans, tous les ans
Non. J'ai un doute.
Le championnat du monde, c'est comme un peu dans les autres sports, c'est...
Tous les 4 ans.
Oui, voilà. Et donc, en fait, tous les 2 ans, vous avez une compétition. Là. C'est pareil pour les U21. L'équipe de France, par exemple, des U21, est vice-championne du monde. Ouais. Donc, c'est une très belle performance. C'est la deuxième fois qu'en fait, nous avons des générations comme ça de U21 qui performent au niveau mondial. Et puis, nous avons également des compétitions de clubs, un peu comme... Et le nom est en train de m'échapper.
Comme pour le foot.
Comme pour le foot, oui.
Pour la Ligue des Champions, quoi.
Voilà, vous avez par pays...
L'EHL,
voilà.
Oui, l'EHL, oui.
Et vous avez 2 clubs qui sont qualifiés.
Alors que des compétitions femmes et hommes, mais là, on en parlait hors antenne, il y a aussi des compétitions mixtes.
Alors, il y a compétition régionale hommes, oui. Et vétérantes, d'ailleurs, où les femmes peuvent participer. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, les femmes peuvent se joindre aux équipes régionales hommes. Mais pas dans le sens inverse. Les hommes ne peuvent pas se joindre aux équipes féminines.
Et vous avez joué contre déjà dans des équipes mixtes. Quelle sensation ça fait?
C'est jouer avec les hommes, c'est une autre.
C'est plus physique. Fatalement.
C'est un peu plus physique. C'est un autre rythme. C'est une autre manière de jouer. Moi, quand je joue avec les hommes, je joue différemment que quand je joue avec les femmes.
Bah oui, totalement.
Donc, c'est très intéressant et c'est un exercice que j'aime beaucoup.
Est-ce qu'ils arrivent à s'engager complètement? Parce que peut-être, il y a peut-être une petite... on freine un petit peu dans l'engagement quand on a un
qui,
contact.
Les hommes?
Oui.
Alors, il faudra demander aux hommes, pas à moi.
Non, je ne sais pas.
J'ai pas l'impression...
Votre ressenti?
Bon, j'ai l'impression que s'ils peuvent me le prendre la balle, ils me prendront la balle.
Oui, mais enfin, bon... par tous les moyens?
Bah.
Ah ouais? Non, mais.
Tu pousses un peu avec l'épaule, tu rends l'appareil. Hein.
Très bien. Vanessa, on va donc parler un petit peu des Jeux Olympiques des jeunes.
Hein,
on parlait des jeunes tout à l'heure pour le hockey sur gazon. Parce que là aussi, on a appris qu'il y avait des Jeux Olympiques de la jeunesse, été et hiver. Alors, viennent de se terminer donc les Jeux d'hiver.
Exactement, ils se sont déroulés à Gangwon, dans la province de Gangwon, en Corée du Sud.
Elle le dit bien.
Du 19 janvier au 1er février, sur les sites de Pyeongchang, des Jeux de 2018. Et il y avait environ 1800 athlètes engagés. La délégation tricolore comptait 65 athlètes. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'on a fait une très belle moisson avec 18 médailles, 7 en or, 5 en argent, 6 en bronze, avec des doublés historiques, des records. On va voir ça un peu plus tard. Mais c'est une compétition en fait, qui est beaucoup plus récente, beaucoup moins médiatisée, qui a été créée en 2007 sous la présidence de Jack Rogge, l'ex-président du CIO. C'était une idée qui était déjà née en 1998. Et c'est Johan Rosenzopf qui a eu cette idée.
Je crois que les premiers Jeux, ce n'était pas 2012.
Voilà, exactement. Ouais, les premiers Jeux, c'est 2012.
Et 2010 pour l'été. Voilà, c'est ce que je dis.
Exactement, 2010 pour l'été, j'allais y venir. Mm-hmm. 2010 pour l'été, 2012 pour l'hiver. Et en fait, c'est un calendrier inversé. C'est-à-dire que les années, cette année, Gangwon en 2024, c'est les Jeux d'hiver et on a les Jeux d'été la même année.
C'est bien de faire ça.
Voilà, comme ça, j'ai entendu qu'ils avaient l'idée de faire sur année impair pour avoir un peu plus de médiatisation. C'est pas le même objectif que des Jeux Olympiques, c'est pas des mini-Jeux Olympiques. C'est vraiment l'idée de départ, c'est de promouvoir le sport auprès des jeunes pour enrayer le fléau de l'obésité, pour surtout promouvoir la pratique sportive.
Oui, et il y a quand même des jeunes qu'on va retrouver.
Exactement,
aux Jeux Olympiques, quand même.
Tout à fait, justement. C'est souvent, on retrouve dans ces Jeux Olympiques de la jeunesse, on a après des athlètes qui font des championnats du monde, championnats d'Europe. Des Jeux Olympiques même après. Donc c'est bien sûr une compétition de sport de haut niveau, pas tout à fait avec les mêmes moyens, c'est plus sobre. Il y a aussi des activités qui sont autour pour développer la jeunesse. Voilà, le slogan c'est Shine Together, Grow Together, Shine Forever, pardon. Grandissons ensemble, grandir ensemble, briller pour toujours. Et c'est vraiment cette idée de développer la jeunesse. Sur le bilan tricolore, qui a été excellent. On a eu Antonin Guy en biathlon, un biathlète. qui a été le Français le plus titré.
Quel âge il a ? C'est son... pas le fils de Famulgi, l'ancien champion de olympique de ski nordique, de combiné nordique.
Ça, j'ai pas vérifié.
C'est possible. Ouais, c'est possible. C'est pas grave.
Mais voilà, Antonin Guy, en tous les cas, il a eu 3 médailles d'or, donc en biathlon simple, en mixte, parce qu'il y a des équipes mixtes, et aussi en sprint. On a aussi Jonas Chollet, ça c'est en snowboard cross homme, qui a également fait un doublé parce qu'il est aussi en mixte, donc un doublé en or, avec Léa Casta. On a Nash Huot-Marchand, alors qui n'est pas de la même famille que Tiffany Huot-Marchand justement, ça c'est en slalom géant homme, médaille d'or également. Et puis en danse sur glace, on a Ambre Perrier-Giannessini et Samuel Blanc-Clapperman qui ont décroché une médaille d'or. Ça, c'est juste pour les médailles d'or. On a aussi eu un podium en doublé, puisque sur justement le podium de snowboard en mixte, on a aussi eu Maja Lee Lafrat Danielson et Benjamin Niel, qui sont sur le même podium donc, que Jonas Chollet et Léa Casta. On a également en individuel, bah justement, Majali Lafrat Danielson en individuel femme. Et puis, encore un podium en argent sur la deuxième marche avec Antonin Guy, de nouveau, Alice Dussert et Flavio Guy et Louise Royer. Ça, c'est un biathlon relais mixte 4 fois 6 km parce qu'il y a plusieurs épreuves. Et puis encore une médaille en argent avec une équipe. Agathe Magreiter, Gaspard Cottaz, Annette Coupa et Quentin Lespine. Et encore donc 6 médailles de bronze. Donc Léa Casta en individuel snowboard cross femme, Flavio Guy en biathlon sprint homme en 7,5 km. Nash Huot-Marchand qui est déjà titré en or sur le slalom homme, parce qu'il était en or, c'était sur le slalom géant, et en or en bronze sur le slalom homme. On a aussi Romain Allemand, en snowboard slopestyle homme, toujours en bronze. Annette Coupa en ski de fond 7,5 km classique femme, et Quentin Lespine ski de fond 7 justement aussi 1,5 km classique homme. Donc franchement c'était vraiment une belle moisson, la meilleure depuis depuis toujours
pratique de sport, voilà, en France, hein.
Et c'est une belle initiative, donc c'est beaucoup plus récent, c'est moins connu, mais c'est vraiment amené à se développer de plus en plus.
Alors pour compléter effectivement donc ce chapitre, apparemment il y aurait eu 78 nations et 1803 athlètes pour 15 sports pour les
Jeux d'hiver. C'est ça, et 81 épreuves.
Ouais, c'est ça. Et puis il y a 32 sports parce qu'il y a aussi, comme l'a dit Vanessa, donc
les Jeux d'été. Oui, hein, oui, c'est ça.
Il y a 32 sports de représentés. Il y a peut-être le hockey sur gazon, hein, pour l'été. Hein. Et puis on se renseignera pour Guy, parce que ça a sûrement un lien de parenté avec celui qui a été champion olympique de combiné nordique.
Et les prochains jeux auront lieu à Dakar en 2026.
Alors, c'est pour cause de Covid.
Voilà, exactement. L'édition de 2022 avait été annulée pour cause de Covid, donc elle a été reportée. Et ce sera à Dakar en 2026.
Eh bien, elle ira là-bas. Voilà. Elle fera des petites interviews là-bas et puis des petits reportages.
Donc, avec plaisir.
Ben c'est très bien. On va revenir un petit peu. On peut vous rejoindre sur le hockey sur gazon. On peut déjà, après cette émission, si certains sont intéressés,
bien sûr,
on peut vous rejoindre.
On propose des essais.
Parce qu'on est quand même au mois de février. Là, c'est 3 mois, 4 mois, c'est terminé, quoi.
Oui, oui, mais nous, on a la saison, la deuxième partie de saison qui va redémarrer, parce que c'est vrai qu'il y a toujours une parenthèse quand même, hein, jusque après les vacances d'hiver. Donc là, on est en train de se préparer. Et on va créer quelques événements à la rentrée, au mois de mars, avril, mai, juin. Et la fédération a eu un geste fort en cette année olympique. Elle offre la licence gratuite pour tous les nouveaux. Donc ça, c'est une opération que nous allons faire. Et comme nous avons envie d'être venir comme nos voisins, c'est-à-dire quasiment à parité, nous allons également mettre en place une cotisation à zéro pour les jeunes femmes. Et les jeunes filles surtout, on va essayer d'attirer comme ça des jeunes filles.
Tous les ans au CFP, on fait la féminisation du hockey. On essaye de le mettre un peu en avant pour promouvoir le sport féminin. C'est très important pour nous, vu qu'on est un club qui est fier d'être très féminin. Du coup, tous les ans, on offre pendant un mois à tout le monde, à toutes les femmes, de venir faire des sessions gratuites. Oui. Et on propose à la fin de l'année des licences gratuites pour bien, la fin de l'année parce que quand elles vont pas, si c'est des débutantes, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une licence compétition. Mmh. Donc on encourage beaucoup ça et nous on accueille au CFP des gens à tout moment de l'année qui veulent découvrir le sport à n'importe quel moment.
Mmh. J'avais une question à vous poser, est-ce que vous avez une discipline en handisport, est-ce que vous développez aussi en handisport le hockey sur gazon?
Oui, alors en tant que comité de Paris, oui, je travaille, nous accueillons deux instituts médicaux éducatifs. Mmh. Le jeudi matin et le mardi en début d'après-midi. Et nous avons des jeunes autistes qui viennent avec leurs éducateurs jouer au hockey. Et là aussi, c'est, cet aspect ludique leur plaît beaucoup. Et donc, voilà, ça, on fait ça. Et puis, on a une équipe de France handisport. on ne développe pas encore... Enfin, si, il y a deux clubs en France. Il y avait Saint-Maur, dont tu parlais tout à l'heure. Et puis Lambersart, dans la banlieue de Lille, où ils ont des sections hockey en fauteuil. Et donc là aussi, ils jouent en gymnase. Et ils pourraient jouer, je connais le gymnase ici, oui. Voilà, avec une arène en fait, pour que la balle ne sorte pas. Et donc on est en train de développer justement le sport adapté, le hockey en marchant, le hockey adapté, pour essayer... à l'instigation des pouvoirs publics et puis de la ville de Paris, de ramener vers le sport et le hockey en particulier les gens qui en sont un peu éloignés, donc les gens en surpoids, les gens qui sont un peu dans la rue. Moi, si vous voulez, le centre Aurore qui est à côté de Porte de Passy, on avait accueilli des enfants sans bourse déliée pour qu'ils pratiquent le hockey.
C'est bien, c'est bien.
On essaye d'être dans la cité.
Ah oui, non, mais parce qu'on l'a vu que c'est quand même un sport qui est cher au niveau de la licence.
Oui, 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 tout à fait.
Si on peut aider. Puis, vous voyez, ça cadre très bien avec ce que nous a montré Vanessa sur la jeunesse sportive.
Mais hein, bien sûr.
Qu'on essaye donc d'inciter à pratiquer le sport à travers donc, ces Jeux Olympiques. Est-ce que la crosse, elle est à la charge du pratiquant, les clubs fournissent?
La charge est alors.
Ouais, en plus. Ouais. Et la balle, donc vous parliez de la balle.
Plus, oui, alors c'est une balle qui est grosse comme une orange. Ah non, ouais. elle est dure. Jamais on aurait dû vous apporter, mais
oui,
là
c'est
aussi,
dommage.
À la radio.
Ouais, on aurait pris la photo après, c'est pas grave.
Ouais. C'est dur comme une balle de golf. Ouais. C'est comme ça que je le décris à chaque fois.
Et c'est gros comme une orange.
Exactement.
C'est gros comme une orange, ouais. Et la crosse, alors, maintenant
La crosse, quand on est comité de Paris et qu'on va dans les écoles ou dans les centres aérés, nous venons avec le matériel. Quand les enfants font des initiations, dans les clubs, on leur prête du matériel, mais dès qu'ils commencent à jouer et à être licenciés, ils ont envie d'avoir leur propre matériel.
Oui, puis il faut des crosses adaptées, sûrement.
Il y a différentes tailles, oui, absolument. Et différentes compositions. Donc, au départ, elles étaient en bois. Maintenant, elles sont en carbone. Ça évolue beaucoup. Mm-hmm. Et là, pour le coup, elles sont fabriquées effectivement en Asie du Sud-Est, mais pas très peu en France.
Mm-hmm. Très bien. Bah, écoutez, la deuxième pause musicale. C'est Ed Sheeran, c'est ça?
C'est ça.
Hein, c'est quoi le titre?
Thinking
Out Loud. Ouais, c'est ça. Allez, on y va.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your love.
place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever.
Allez, 20h05, c'est la dernière partie de cette émission, une dernière partie donc qui va être consacrée au foot. On a notre ami Stéphane Desenclos au téléphone. Stéphane, bonsoir.
Oui, bonsoir ouais. Philippe, bonsoir à toutes ouais. et à tous.
Voilà, comment ça va d'abord? Ça va, on a vu une belle journée de championnat?
Ouais, bah on a vu un bon week-end, je pense, avoir des très bons matchs, je trouve qu'on a vu des bons matchs de championnat, ouais.
Alors, une journée encore prolifique au Paris Saint-Germain qui creuse encore un peu plus l'écart, hein, même si le PSG a simplement assuré l'essentiel à Strasbourg en s'imposant 2-1. Parce que dans le même temps, eh bien, Monaco a laissé des points 1-1 contre le Havre et puis Nice-Brest 0-0.
Oui, tout à fait. Donc, le Paris Saint-Germain a pris 2 points de plus à ses principaux poursuivants, hein, en dehors de Lille, qui a fait aussi une bonne affaire, quoi, une bonne affaire qui a gagné assez facilement et qui, du coup, se rapproche encore plus des trois autres là, dont, que vous avez cité.
Oui, alors on va rappeler quand même que l'effet important, c'est effectivement Lille qui a cartonné, hein, et qui a enfoncé encore un peu plus Clermont 4-0. On va noter quand même la victoire de Rennes, hein, qui continue toujours invaincue en 2024 en ayant battu Montpellier 2-1, même si ça n'a pas été facile pour les Rennais. Lens qui est allé gagner à Nantes 1-0. Monaco-Le Havre, on l'avait dit, un partout. Donc les Monégasques qui commencent à marquer sérieusement le pas. Et puis une victoire importante, c'est celle de Lorient à Metz 2-1. Et puis Toulouse qui a déjoué tous les pronostics en allant gagner à Reims 3-2. Et puis hier donc, eh bien, Lyon qui s'impose devant Marseille 1-0.
Ouais, tout à fait. Ouais. On peut dire que Lyon a aussi quand même un peu déjoué les pronostics. Hein. Oui. Que ce résultat et aussi la manière, parce que Lyon a quand même pas mal joué, quoi, a montré des choses nouvelles et intéressantes, et donc qui a gagné avec et moi j'insiste franchement sur vous savez, on décrit certains décrivent beaucoup le championnat de France et notamment bien sûr par rapport à la Première Ligue, dont on ne conteste pas bien sûr la Première Ligue que c'est le meilleur championnat en Europe, mais il y a quand même des matchs ou des week-ends où on ne s'ennuie pas plus, même des fois c'est même mieux de regarder des matchs de Ligue 1, et le Brest-Nice était pas mal je dis, parce que Nice
0-0 quand même hein, Stéphane.
Ouais, oui, mais c'était quand même pas mal, ouais. Et il faut se les coltiner quand même Nice, c'est vrai que Nice c'est un peu pénible quoi, mais Brest c'est quand même très très intéressant, et puis surtout il y a le Nantes-Lens qui était vraiment un très bon match. Oui, moi j'ai regardé par exemple ce week-end en même temps Manchester qui a battu je ne sais plus qui 3-0, peut-être Wolverhampton, je ne sais plus qui, et puis Nantes-Lens, Nantes-Lens c'était un match bien meilleur, pourtant il y a eu 3 buts de Manchester, mais donc voilà, le Arsenal-Liverpool était très décevant, il y a eu des... Non, c'est week-end de Ligue 1, même si effectivement le PSG...
Justement, c'est peut-être le seul championnat européen où finalement, je ne veux pas dire qu'il n'y a plus de suspense, mais presque, hein, puisque le PSG est en tête à 47 points. Ils ont 8 points d'avance maintenant sur Nice, deuxième 39 points. Troisième, c'est la bonne révélation de la saison, on l'avait dit, donc l'équipe d'Éric Roy avec Brest avec 36 points. Et quatrième, donc Lille et Monaco, 35 points. Lens, sixième, 32 points, qui recolle et qui peut donc postuler pour l'Europe. Et puis derrière, en bas de tableau, Toulouse, 12e avec 20 points. 13e, Montpellier, Nantes et Lyon, qui espère peut-être pouvoir s'en tirer avec 19 points. Et puis 16e, Metz et Lorient, 16 points. Et 18e, Clermont, 15 points.
Voilà, sinon, c'est quand même très, 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 très chaud dans le bas de tableau, ouais. Puisque, hein, ouais. Comme vous venez de le dire, de Nantes, je crois...
Il y a 5 points entre le 12e et le 18e.
Voilà, je crois que Nantes est 13. Voilà, il y a 5 points. Il y a au moins 5-6 équipes qui se tiennent en 5 points. Donc, ça va être très, 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 très chaud en bas. Maintenant, devant, effectivement, c'est peut-être un championnat qui est pratiquement joué. Mais quelque part, c'est, même si le Paris Saint-Germain fait quand même un bon parcours, pas forcément des bons matchs, mais un bon parcours. Et derrière, c'est de la faute aux autres qui avancent pas, qui à partir du moment où l'OM et Lyon sont à ce niveau-là, donc les deux clubs censés, on peut espérer de Monaco pour concurrencer, mais il faut une grande année, on sait qu'on n'est pas dans une grande année. Donc effectivement, on peut dire que le championnat il est quasiment joué. C'est pas uniquement parce qu'il y a 8 points de différence. C'est aussi quand on regarde le niveau des équipes qui sont derrière et les résultats des équipes qui sont dans les 5 premiers aujourd'hui, quoi.
Alors quand même bon parcours pour Lille, hein, qui fait son petit bonhomme de chemin. J'allais dire comme pratiquement chaque année.
Voilà, tout à fait, ouais. C'est quand même solide. C'est assez solide, Nîmes. Et Lille, effectivement, je pense que Lille peut à terme terminer dans le top 4. Quoi. C'est à top 4 maintenant parce que le quatrième est qualifié pour la Ligue, pour les tours de qualification de la Ligue des Champions, hein, à la saison prochaine. Donc, Lille, c'est solide. Ça travaille bien, c'est solide. Ça visera pas le titre, en tout cas cette saison c'est clair, ça visera pas le titre, mais c'est solide pour se battre dans le top 5, top 4, sans problème, ce qui est d'autant plus inquiétant pour des équipes comme l'OM, particulièrement l'OM, ouais. Surtout qu'on parle de Lille, mais moi je verrais bien Rennes aussi faire une remontada.
Oui, j'allais en parler, Rennes qui est sur une bonne dynamique, hein, invaincu depuis le début de l'année 2024.
Ouais, tout à fait. Rennes.
Et puis Brest aussi, voir, hein, l'équipe surprise. Hein.
Ouais, tout à fait. Ouais, surprise, pas de début de saison, mais peut-être surprise parce qu'elle était tombée un peu très bas en fin d'automne, quoi, avant que l'hiver commence. Là, ça soit le dernier match de Ligue Europa là, contre Villarreal ou les autres résultats derrière. C'était vraiment très. Très compliqué. Là, ils sont partis un peu avec la confiance. Ils ont finalement fait un mercato assez intéressant dans le sens où ils avaient plusieurs joueurs sollicités, mais ils ont eu aucun de ces joueurs qui est parti, quoi, en dehors de Matic. Mais bon, ça sera peut-être un peu dommage. Ils l'ont remplacé par Matuziwa de Reims. Donc non, je pense que c'est assez solide. Et puis, comme les autres avancent pas devant, bah, ils doivent se retrouver Reims à 7 ou 8 points de la deuxième place, quoi, ou en tout cas pas très loin de la quatrième place sûre ou du cinquième. Alors c'est inquiétant pour des équipes comme l'OM, par exemple, qui a besoin de rentrer dans le top 14, dans le top 4, qui a que 8 points de retard ou 7 je crois, de points de retard sur le deuxième, non, même pas, je crois moins, peut-être 6 sur le top 4, mais bon, avec ouais. Des équipes devant comme Rennes et Lille, ça va être compliqué, quoi.
Et puis Brest, donc l'équipe d'Éric Roy qui viendra défier à nouveau le Paris Saint-Germain, donc mercredi en Coupe de France. En Ligue 2 aussi, toujours donc aussi passionnant, 23e journée avec donc une nouvelle défaite pour Saint-Etienne à Dunkerque 1-0. Auxerre qui est allé faire nul à Pau de partout. Victoire d'Angers hein, qui conforte sa première ouais. place devant Rodez 2-1. Victoire de Quevilly-Rouen à Laval 4-2. Laval, hein, comme Monaco, marque un petit peu en Ligue 1, marque un petit peu le pas en Ligue 2. Grenoble qui écrase Caen 5-1. Et puis Amiens et le Paris FC donc qui font nul 1 partout. Ce soir, il y a... un derby corse, Bastia-Ajaccio à 20h45. Ouais. C'est Angers pour l'instant qui est en tête, 46 points, devant Auxerre 44, 3e Grenoble 40 et 4e Laval 39. Et puis en milieu de tableau, on a Guingamp, le Paris FC et Saint-Etienne avec 32 points, ils sont 9e à égalité. Et puis en bas de tableau, 16e Bastia-Annecy-Dunkerque 23 points, 19e Quevilly-Rouen 21 points et 20e et dernier, donc Valenciennes 14.
Ouais, tout à fait, et je crois que tous les... de mémoire, parce que j'ai pas tous les derniers là, ils ont gagné, je crois, non, Valenciennes, Dunkerque,
Annecy. Oui, Valenciennes a gagné, Dunkerque a gagné, effectivement. Donc
Annecy, ils ont gagné, je crois aussi, ou ils ont fait un nul, je crois qu'ils ont gagné à Guingamp, je crois, non.
Oui, oui.
Et voilà, donc ce qui veut dire que là aussi, ça va être très, très, très chaud pour ces équipes là, alors que Bordeaux, par exemple, on pouvait penser qu'elle est un peu mieux, a perdu à 3, donc ça veut
une
dire
nouvelle fois,
pas...
ouais.
Ouais, ils sont pas sortis de, sont pas sortis d'affaires, donc c'est très chaud. On va dire quand même que le grand perdant encore du week-end, c'est Saint-Etienne, quoi, qui doit se retrouver
en milieu de tableau, comme le Paris FC 9e.
Voilà, loin. Et bon, c'est sûr qu'un club comme Saint-Etienne peut être une équipe qui réussisse, s'ils arrivent à coucher à 5e place, à performer pendant les barrages, quoi. Mais bon, c'est quand même la grosse déception, je pense, pour l'instant, le fait marquant de ce début de saison, quoi, de cette première partie de saison en Ligue 2, c'est la situation de Saint-Etienne, quoi. Ils n'y arrivent pas, et puis c'est malheureux, mais franchement, je pense que c'est encore remis à plus tard, un retour en Ligue 1.
Ouais, alors, il y a d'autres équipes aussi, hein, comme Bordeaux, par exemple, qui ont aussi du mal. Hein. Donc,
voilà. Oui. Hein, Bordeaux, ils ont du mal. Hein. Bordeaux, c'est encore pire que Saint-Etienne. Mais Saint-Etienne, il y a encore un mois ou peut-être un peu plus d'un mois, ils étaient dans le top 5. Bon, là, ils ne sont pas très loin. Hein. Je pense qu'ils doivent être à 2 points ou à 3 points. Je crois qu'ils ne doivent pas être très loin du 5e, je pense. Mais ils étaient quand même encore bien en course. À un moment, ils sont repartis. Même on disait, je me rappelle, tout le monde disait Lyon va descendre l'année où Saint-Etienne va monter. Ils vont se croiser, quoi. C'était les deux choses évidentes. Bah, aujourd'hui, Lyon a plutôt... la tête de quelqu'un qui va finir par s'en sortir, et puis Saint-Etienne, la tête de quelqu'un qui ne va pas arriver à monter. Quoi.
Mmh. En National, 19e journée, il y avait un match ô combien choc, hein, Sochaux-Red Star, ça rappelle des bons souvenirs pour les anciens, match nul de partout, victoire de Versailles à Rouen 2-1, le Red Star toujours en tête avec 40 points, devant New York 34, 2e et 3e Martigues 33, et puis Versailles, ils sont en milieu de tableau, comme Villefranche en Beaujolais, et Le Mans avec 24 points, et c'est Cholet qui ferme la marche avec 13 points. Voilà, donc le Red Star toujours cavalier seul avec Abibay aux commandes.
Alors, ouais, Red Star avec 7 points d'avance sur le 3e, donc ça paraît quand même, ça commence à sentir bon, surtout qu'ils ont l'air vraiment d'être sans faille, quoi, hein, parce que à Sochaux, ça ne va pas être facile, ça n'a pas dû être facile de ramener le match nul. À Sochaux, ça a sacré. Adversaire, quoi. Donc ça n'a pas dû être facile, donc je pense que ça sent bon quand même pour le Red Star, mais bon, tant que c'est pas fait, hein.
C'est bon, on aura des affiches PFC Red Star la saison prochaine, ouais. En Ligue 2, c'est bien. Allez, en National 2, on va rappeler que le Paris Atlético donc le club des Gobelins, le club d'ici, hein, donc qui a fait match nul à Bourges, un partout. Le Paris Atlético pour l'instant est troisième avec La Roche-sur-Yon, Saint-Privé, Saint-Hilaire et Romorantin avec 23 points, mais un match en moins. Ils sont à 4 points donc du leader, les Vendéens des Herbiers avec 27 points. On vient aux féminines, on en parle sur la semaine de Coupe d'Europe. Hein, Lyon qualifié malgré son nul contre le Slavia Prague 2-2. Lyon premier de la poule avec 14 points. Et puis le Paris Saint-Germain qui est allé faire 2-2 à Munich. Paris Saint-Germain également première de sa poule au Golavrage avec 10 points devant l'Ajax.
Ouais, tout à fait. Bah, c'est ça, ça n'a pas bougé hein, depuis la dernière fois. Oui. Les deux clubs français en tête de leur groupe maintenant, c'est eux.
C'était pas évident pour le PSG, Stéphane, au début. Hein. Ils avaient perdu
deux matchs. Non, ils ont fait deux défaites, crois. Le Bayern était venu gagner, puis ils avaient perdu à l'extérieur, je ne sais plus où, mais ils n'étaient pas très bien partis. Et puis finalement, bah, ils ont enchaîné les victoires. Puis bon, ils ont été un peu en danger quand même lors du dernier match là, mais ils ont réussi à faire deux partout, à garder cette première place. Donc tant mieux pour eux. Par contre, en revanche, le troisième club français.
Alors justement, on va en parler. Hein, ils avaient obtenu leur qualification après le tour préliminaire. Malheureusement, ils ne poursuivront pas l'aventure. Largement battu à Charletti par Chelsea 4-0 et le Paris FC termine troisième de sa poule avec 7 points.
Ouais, tout à fait. Bah, c'est déjà, je pense que c'est quand même un bon parcours de déjà d'être passé via les qualifs pour participer à cette phase de poule. C'est un bon apprentissage et ça montre qu'il y a quand même des clubs français qui montent en dehors de Lyon et du Paris Saint-Germain éventuellement. C'est bien, on en a au moins un troisième. Donc c'est assez intéressant, quoi.
Alors, par contre, en championnat, bah, toujours cavalier seul encore pour les Lyonnaises hein, qui ont étrié Reims 4-1. Fleury est allé faire nul chez le président Bovis. Le Paris Saint-Germain, pardon, est allé faire nul chez le président Bovis à Fleury, un partout. Et puis, victoire du Paris FC devant Lille 3-2. Donc là, pas de changement. Lyon en tête, 42 points. Deuxième, le PSG, 32 points avec un match en moins. Et troisième, le Paris FC, 28 points avec un match en moins.
Ouais. Ah bah on se dirige toujours 28 points, c'est sûr, le Paris FC, c'est
oui,
ça
28 points. Ils ont 4 points de retard sur le PSG, mais un match aussi en retard comme le PSG.
Ouais, donc voilà, bon, ça va jouer là maintenant, comme on en parlait la dernière fois, hein, c'est avec cette histoire de play-off. Hein, de toute façon, le Paris Saint-Germain ne reviendra pas sur Lyon, donc il y a leur seul objectif, je pense, maintenant, c'est de bien terminer deuxième et de garder... le Paris FC à distance pour pouvoir affronter uniquement Lyon en finale quoi en considérant qu'ils arrivent à battre effectivement le Paris FC. Ça pourrait nous faire un beau derby en demi-finale des barrages, quoi.
Oui, à condition que le deuxième joue le troisième, le premier et le quatrième, ça devrait être là. Mais c'est vrai que pour l'instant, on tend vers un derby PSG. PFC, un petit mot sur la CAN hein, qu'on suit sur notre radio.
Ouais.
On a quand même une compétition complètement folle. Hein. Nigeria, Afrique du Sud et puis Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. Ça sera les deux demi-finales donc proposées. Exit l'Algérie au premier tour. On en a parlé la semaine dernière. Exit l'Égypte, le Sénégal, le Maroc au cours de ces huitièmes de finale. C'est vraiment la CAN de toutes les surprises.
Oui, tout à fait. Et puis des surprises. Et puis, ce qui est quand même intéressant, c'est que ces équipes-là, elles sont sorties. Mais par exemple, ce qui aurait pu être le cas, par exemple, si jamais la Côte d'Ivoire n'avait pas été rattrapée, quoi, c'était pas quasiment miraculeusement qualifié. Elles sont pas sorties comme ça de façon un peu anonyme en faisant des mauvais matchs, certainement en faisant des mauvais matchs, mais de façon un peu anonyme en dehors de l'Algérie, quoi. C'est le seul. Sinon, les autres équipes, ça a été des scénarios incroyables. Ça s'est fini au tir au but. Ça s'est fini avec le Maroc, par exemple. Un penalty en cours de match de d'Hakimi qui pouvait égaliser, qui manque, quoi. C'est des émotions et tout. Donc je pense que c'est je sais pas si c'est la meilleure CAN de l'histoire comme certains veulent bien le dire.
En tout cas, ça, c'est une CAN offensive hein, qui marque des buts hein.
Voilà, qui marque des buts.
2,50 de moyenne pour le premier tour et on en est à 2,31 là depuis les phases d'animation directe.
Et qui fournit surtout, c'est surtout une CAN qui fournit beaucoup, beaucoup d'émotions, quoi. Quand vous avez des équipes comme par exemple le quart de finale entre la Côte avec la Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire et le Mali, où le Mali est très certainement peut-être un peu plus fort dans le match, mène 1-0 face à une équipe réduite à 10, et puis finalement perd 2-1 avec un but à la, dans les arrêts de jeu, quoi, ou à la 90e minute. Donc c'est des émotions, c'est des émotions incroyables, effectivement, il y a des émotions incroyables, mais encore une fois, je ne vais peut-être pas aller, moi, jusqu'à m'emballer comme beaucoup de certains observateurs qui disent des grands amoureux du foot africain qui disent que c'est la plus belle CAN de l'histoire, machin. Je suis pas sûr, notamment au niveau de l'absence de grosses stars et puis de surtout du public, quoi, qui est un peu,
c'est pas nouveau, hein, Stéphane, hein. C'est souvent le cas dans la Coupe d'Afrique des Nations, malheureusement.
Ouais. Mais quand même, quoi. Moi, je regardais Maroc, c'était Maroc. Bah, le Maroc, ils se sont fait éliminer par qui, Maroc, tout d'un coup. D'accord, ça j'ai plus le nom. Mais,
tout, hein. C'est souvent, en tout cas, que donc, des équipes comme que des CAN, où malheureusement, les stades ne sont pas très remplis parce qu'on n'a pas malheureusement toujours les moyens de pouvoir se payer des billets. Quoi.
Ouais, tout à fait. Maintenant, et puis, il y a aussi un peu le manque de stars. Bon, après, c'est de la faute de personne, surtout pas des organisateurs. Bon, pour les billets, peut-être aussi quand même, d'après... Ce que d'après mes informations, puis d'après ce qui se dit et tout, il y a quand même une commercialisation des billets qui n'a peut-être pas été très bien pensée. Hein. Alors, ils ont vendu beaucoup de billets à des tours opérateurs ou des gens qui les achetaient pour les revendre et qui n'ont pas réussi à les revendre. Donc finalement, les places sont vides alors que les billets sont achetés. Quoi. Donc c'est quoi, je résume un petit peu sommairement, mais c'est un peu ça qui s'est passé. Maintenant, après, il y a aussi l'absence de stars, parce qu'on aime bien les stars dans le foot. Alors c'est pas celle qu'il y avait même avant que Mané, Mahrez, Salah soient forfaits ou éliminés, c'est une chose, mais même avant il y en avait quand même déjà très peu par rapport à quelques années où il y avait beaucoup plus de joueurs vedettes qui jouaient, quoi. Donc c'est pour ça peut-être qu'il y a aussi ces résultats très très imprévisibles, mais c'est vrai que ça manque peut-être un petit peu, mais bon. Moi, je trouve que c'est la CAN de l'émotion, en tout cas, beaucoup, beaucoup d'émotion.
Et le Maroc s'était donc éliminé par le Cap-Vert, voilà. Donc, Nigeria, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. On s'achemine vers une finale Nigeria-Côte d'Ivoire, un parcours champion, hein, pour la Côte d'Ivoire, qui était pratiquement éliminé il y a 15 jours et qui s'en est tiré depuis avec donc une victoire contre le Sénégal au tir au but et dans la prolongation contre le Mali.
Ouais, c'est fou parce que le c'est pas que le fait qu'ils aient été quasiment éliminés au soir de leur défaite 4-0, mais c'est même ça continue derrière.
Oui,
c'est-à-dire que le Sénégal, c'est au tir au but contre le Mali. Franchement, je pense qu'on donnait pas cher de leur peau quand ils étaient menés 1-0 à 10-11, et finalement ils égalisent en toute fin de match, hein, je crois, et puis après, ils vont à la prolongation, si on lance du record à 10-11 dans la prolongation, le Mali, ils sont quand même costauds, ça va pas être évident, et ils passent encore, alors on a vraiment l'impression qu'ils sont bénis, et là, leur demi-finale, ils vont la jouer à Abidjan, donc ça va être encore, effectivement, comme on dit, hein, c'est un CAN où il n'y a pas énormément, quoi, une grande ferveur du public, une grande présence du public, bah, sauf pour les Ivoiriens, ça c'est sûr qu'ils vont jouer dans un stade archi plein et complètement acquis à leur cause, quoi.
Oui, tiens, justement, je vais demander l'opinion d'Alexandre qui était donc là-bas à la CAN. Alexandre, t'en penses quoi? On s'achemine vers un Nigeria Côte d'Ivoire. Tu reviens de loin, toi l'Ivoirien quand même, hein, il y a 2 semaines vous passiez à la trappe.
Oui, on revient de très très loin. Et ouais. D'ailleurs,
c'est des parcours de champions, ça, souvent.
Oui, c'est pour ça qu'on croise les doigts. Mais le Maroc, c'était l'Afrique du Sud. Hein.
C'était l'Afrique du Sud, l'Afrique voilà, j'ai hésité. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Avec cet arrêt du gardien qui a eu 4 arrêts sur 5. Voilà.
Non, ça, c'était Cap-Vert.
C'était le Cap-Vert.
C'était le Cap-Vert. Il y a l'histoire du Cap-Vert.
En quart de finale. Et voilà. Le Maroc sont sortis en 8e voilà. Contre l'Afrique du Sud.
C'est ça. Voilà. Et là, il y avait Cap-Vert et l'Afrique du Sud dans l'eau. C'est ça.
Voilà. Ouais. Mais pour revenir à la Côte d'Ivoire, bon, déjà, le Nigeria, c'est une équipe sans doute favori.
Oui, pour moi, oui.
Oui, favori avec des grandes individualités comme Victor Osimhen, qui est très, très impressionnant. En tout cas, vu du stade, il est très impressionnant. Et la Côte d'Ivoire, c'est bon. C'est un pays, c'est une équipe qui revient de très très loin, qui est éliminée, donc comme Stéphane l'a rappelé, qui s'est qualifiée grâce au Maroc. Et le match du Sénégal a été pour autant très impressionnant, avec beaucoup de changements dans le 11 de départ par le nouveau coach Emers Faye. Beaucoup de changements. Ils étaient largement supérieurs. Kessié qui revient de loin, qui marque le pénalty victorieux, c'était la folie dans les rues Abidjan. Inimaginable. Et contre le Mali, par contre, une Côte d'Ivoire méconnaissable, mais finalement à l'image des matchs en phase de poule, avec les Maliens qui ont été très très bons, et le but marqué à la 75e par Néné, qui est un Ivoirien d'origine justement. Et là, je peux vous assurer qu'on donnait pas cher de leur peau. Et au final, ils sont revenus de très très loin avec des buts dans les dernières minutes. Et voilà.
Merci d'avoir en tout cas complété ce petit coin, coin foot sur la CAN. Voilà.
Et c'était l'ambiance aussi dans les rues de Paris samedi soir.
Ah bon ?
Ah oui.
D'accord. Eh ben, c'est bien. C'est bien. Merci Stéphane. Et puis
on te retrouve dans le bout du foot tout à l'heure.
Au bout du foot. Voilà. Merci. 30 secondes pour finir donc cette émission. Vous avez suivi le foot ? Vous aimez le foot ?
J'aime le foot, oui. Ah bah, mais voilà.
Attends, surtout, je ne fais pas trop le micro.
Je touche pas.
Ouais. Allez-y.
Je suis obligé de faire des choix. Comme je passe beaucoup de temps dans les réunions ou sur le terrain, je ne regarde pas trop le foot. Je regarde le rugby, le hand, les finales en fait, avec ma femme.
Merci en tout cas.
Merci à vous.
Jean-François Boyer. Merci en tout cas à Ella aussi. Bon parcours, hein, bonne suite.
Merci.
Voilà. Merci Alexandre. On te revoit les prochaines semaines.
Ça marche.
Et puis on reverra aussi Vanessa la semaine prochaine. Voilà. Merci au duo de choc avec donc Léonard et puis Jason pour la mise en place de cette émission sur le plan technique. On vous laisse avec l'ami Malik au bout du foot et on finit avec Dua Alina. Donc start now, c'est ça? Voilà.
Start now.
Allez, c'est très bien. Avec l'accent irlandais. Bonne soirée à toutes et à tous.
Merci, au revoir.
If you don't wanna see me. Did a full 180. Crazy. Thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe. But look at where I ended up. I'm all good already. So moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up.
is a big rich town. I just come from the poorest part. Bright light city life, I gotta make it. This is where it goes down. I just happen to come up hard. Legal or illegal, baby, I gotta make it.
I never took a straight path nowhere. Life's full of twists and turns, bumps and bruises. I live, I learn. I'm from that city full of yellow cabs and skyscrapers. It's hard to get a start in these parts without paper. Homie, I grew up in hell, a block away from heaven. That corner ain't 15 minutes and move a 7. Pure snow, bag it, then watch it go. Occupational options, get some blow or some hoes. Shoot the ball or the strap, learn the rap or the jack. Fuck it, man, in the meantime, go ahead and pump a pack. This my Regal Royal flow, my James Bond bounce. That 007, that 62 on my count. I'm an undercover liar, I lie under the covers. Look a bitch in the eyes and tell her, baby, I love it. You're my inspiration, you're my motivation. You're the reason that I'm moving with no hesitation.
They say this is a big rich town, yeah. I just come from the poorest part. Bright light city life, I gotta make it. This is where it goes down. Oh, yeah. I just happen to come up hard.
I gotta hustle through the hustle and bustle. I make a move, maneuver around the rats and wolves. I'm from the school. A hard knock, shots pop, bodies drop. Graveyard, pick a plot, cause niggas want your spots. I'm tryna stack shit, then I go legit. Hollow tip, stuff them in the clip, case niggas trip. My cocaine endeavors, give me corporate ties. I'm supposed to lose, watch me win against the odds. All I got is my word balls and my instinct. I'm trying to make it, we already made it, my friends think. We already on top, I got a bigger plan. No more controlled substances or hand to hand. White collar visions, game changing mission. Big risk, big.
Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Victoire obligatoire, quelle que soit la manière, selon le sélectionneur.
On peut disserter, il n'y a qu'une chose.
Son équipe n'a pas le droit à l'erreur.
C'est le résultat. Encore faudra...